Allô, allô. Ah, c'est mieux. Ah oui, n'a rien à dire. Bon, c'est les aléas du yacht. Bonsoir, vous êtes bien dans votre émission, c'est l'effet Noël. Le temps que la 14e journée se mette sportivement en place, vous avez vraiment fait le bon choix. Radiophonie, il est 18h04 ici à Langueux, il est 17h04 au pays de Chili, Emmanuel Adebayo, où tous les éperviers sont connectés, pour ne pas dire le Togo, sont connectés sur la station de Radioactive www.radio-active.com. Tout d'abord, on tient à remercier toute l'équipe de votre station Radioactive 101.9. Formule chaleureusement bonne fête de Noël et de fin d'année qui n'est pas loin à toute votre famille et vos proches. Et une fois encore, merci de votre fidélité auprès de votre station. Et on vous envoie sportivement la santé. Bon, on va faire le décor sportif de votre émission 14e journée, saison 9. Un habitué, on peut dire même, c'est notre consultant hebdomadaire sportif de African 22 Sport. À ma gauche, Alain Elio. Comment va, monsieur Elio?
Ah, ça va très bien. Ah. Bah, comme toujours, hein.
Ah, j'aime bien la voix, là. Ah, ça, c'est la voix vraiment qui donne le côté appétissant, côté positif.
Le plaisir de voir tous ces auditeurs de Radioactif.
Oh là 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 là. En face de monsieur Liu. Lui aussi, ça y est, hein, c'est notre consultant et fan de l'équipe de France et même à deux pas, quelques minutes du vol d'oiseau ici du côté de Rujuru, de en avant de Guingamp, fan de ce bel club costa-mauricain. Comment va Manu Vianney?
Ouais, très bien, merci Yao pour cette invitation. Ça va, la forme, hein. On est en période des fêtes de fin d'année, il faut être heureux, il faut vivre pleinement ce grand moment.
Ah, ça c'est vraiment, il y a beaucoup de paroles de sagesse dans votre émission. On tient une fois encore, merci avec M majuscule de votre fidélité, de se connecter dans votre station. Ça nous fait énormément plaisir. Il y a un autre invité aussi qui nous écoute depuis Lomé au Togo, Eric Fabre. On va essayer de prendre son pouls sportif. Il a pas mal de révélations sportives à nous parler de ce qui se passe là-bas au niveau. Un petit clin d'œil selon lui, concernant cette 22e édition de la Coupe du Monde de football. Et sans oublier l'homme qui tient le gouverneur de cette émission hebdomadaire, le premier homme de Moncontour, Gaël Le Manchet. Comment va Gaël?
Bonsoir à tous. Je suis très 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 content de vous voir aujourd'hui, messieurs. Très content de vous parler aussi à vous, messieurs, dames, qui êtes de plus en plus nombreux chaque week-end à nous écouter pour bien commencer le week-end. Voilà, un petit moment musical en douceur, ou pas du tout, parce qu'on aime bien un petit peu de musique voilà, qu'on voit. On s'est envoyé le week-end dernier. T'étais content de la playlist le week-end. Ça nous a pas porté chance, mais c'était bien.
Ah oui, ça prouve qu'on triche pas, on reste tel qu'on est. On a fait de très mauvais pronostics et à la fin, c'est le terrain qui décide et c'est ça qui donne le charme. On n'est pas loin, plus ou moins.
Alors, moi perso, j'ai toujours dit que je ne voyais pas qui pouvait battre l'équipe de France et en l'occurrence, personne, puisqu'on a fait match nul.
C'est pas faux parce que gagner au tir au but, c'est gagner au loto, aléatoire. Bon, ça c'est mon humble avis. Après, on a d'autres spécialistes qui vont nous donner vraiment cette analyse-là tout à l'heure. Et d'abord, la fête des enfants, on est dans la période de la fête de Noël, donc on dit big up, la santé et le plaisir familial avant tout. Parce qu'on a la chance de voir ses proches, de voir sa famille, de voir ses progénitures. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Et on va laisser la technique nous envoyer quelques morceaux. Et puis on va essayer de s'envoler. On va aller à pratiquement 5000 km de Langueux, au pays de chez Emmanuel Adebayo. Un pays qui partage la frontière avec le pays des Black Stars, le Ghana. Le Togo, on va aller au Togo tout à l'heure.
Ouais, on va rester sur Saint-Brieuc pour le moment. Il y a de la jolie musique sur Saint-Brieuc avec des groupes qui nous sortent des jolis sons. Et ce soir, ça sera Foc qui nous propose En Suspens, un titre que j'aime beaucoup écouter sur Subtrack. Subtrack, c'est votre rendez-vous du mercredi avec Louis et Guirec qui nous proposent toujours un choix magnifique de chansons à la fois en local et voilà.
On leur envoie la santé.
Tous les styles musicaux. C'est magnifique, ouais. Salut les gars, et bon Noël à vous, et bon Noël à vous tous. Foc tout de suite, un bon son briochin. qu'on vous propose sur Radioactive ce soir. Ça, c'était du son briochin comme on les aime, mon petit Yao. C'est du direct, mon Yao, ça y est, on a remis son casque, on a remis le son, c'est à toi tout de suite. Pour un invité de choix, vraiment, c'est un joli cadeau de Noël que tu nous proposes.
Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sports, il est 18h11 ici en France, il est 17h11 au pays de Chili, Emmanuel Adebayor, où on a la chance d'avoir Eric Fabre, il est le président de l'association des Black Stars. C'est une association qui regroupe les anciens internationaux français et africains et qui est basée à Paris. Alors, comment va Eric, si la technique nous permet? Est-ce qu'il nous écoute? Il écoute Radioactif depuis Lomé au Togo. Eric, tu nous reçois 5 sur 5.
Oui. Bonjour. Bonjour à vos auditeurs, bonjour aux animateurs qui sont là également, mais je suis content depuis Lomé, la capitale du Togo, où il fait bon, il fait même très chaud, et il semblerait que chez vous là-bas, il fait un peu froid.
Ah, il fait quelle température là-bas au pays de Agassa Kossi, Alexis Romao, de Serge Gakpé, les anciens, les internationaux togolais, il fait quelle température là-bas au pays des éperviers?
On doit avoisiner les 30 degrés, il doit faire dans les 28-29 degrés.
Ah, tu es le président des Black Stars. Alors, présente-nous ta belle association sportive. C'est quoi les Black Stars? C'est toi le président des Black Stars?
Oui, les Black Stars, c'est une équipe, c'est une association que nous avons créée dans les années 80. Je dirais qu'en avant Guingamp, au temps où le président Le Graët était un jeune président, a pris part à nos tournois aussi à Paris. Et depuis, avec Jean-Pierre Darchène qui était là-bas, Alain de Vincini, donc ça ne nous rajeunit pas. Et depuis, cette association a traversé le temps. Et là, on se prépare l'année prochaine pour faire une grande manifestation au Bénin.
Et c'est qui ces pépites-là qui font partie de cette Black Star?
Oh, il y en a tellement, hein, il y en a tellement. On a eu les Valdo, les Wea qui est aujourd'hui chef d'État au Libéria. On a eu beaucoup de joueurs que je suis incapable de vous citer, comme cela de but en blanc. Il y en a eu tellement les Toko, les Abedi Pelé, les Valdo, il y en a eu tellement.
Les Bella Lama, les Basiboli, tout, ouais.
Ben oui. Disons que Black Star, c'est pas seulement une association. On a cité ceux qui faisaient la pluie et le beau temps dans le championnat français à l'époque, mais tout le monde avait sa place avec nous hein, au sein du Blacksa.
Eric Fabre, l'actualité internationale oblige. Je voulais voir ta réaction en show concernant la finale d'anthologie priorité au bleu et avec le match face à Albi Céleste. Je voulais voir ton point de vue technique et je pèse mes mots pour te piquer un peu pour faire l'effet épervier. Gagner au tir au but, ce n'est pas gagner au loto.
Pas du tout, pas du tout. Je crois que à force de dire ça, c'est pas bon pour les, et c'est pas respectueux non plus pour les vainqueurs. Tout s'apprend aujourd'hui, tout s'apprend. On ne laisse plus rien au hasard. Les jeux de hasard, c'est la loterie. Le football, c'est pas un jeu de hasard, y compris les tirs au but. Il y a des gens qui s'en prennent et qui marquent. Il y a d'autres qui ne s'entraînent pas et qui, vous savez que le travail, ça paye toujours. Mais c'est vrai que sur un tir au but, on peut le louper ou ne pas le louper. Mais quand on s'applique, quand j'étais jeune à Lannion, on marquait sur mon bulletin, élève appliqué peut mieux faire. Voilà. Donc on peut toujours mieux faire si on travaille. Et ça, moi, je vois le football aussi comme cela, qui est devenu aujourd'hui de plus en plus scientifique, où les entraînements finissent par payer. La formation. La France, qui n'était pas une grande nation de football il y a une trentaine, une quarantaine d'années, et aujourd'hui, une trentaine d'années, est aujourd'hui une grande nation de football. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des gens comme Boulogne qui ont pensé à la formation. Je dis bien à la formation. Et puis aujourd'hui, bon, mais on voit les résultats.
Eric Fabre, le consultant sportif de Africa 22 Sports et président de l'association Black Star qui regroupe les anciens internationaux africains et au sein de votre association. Alors, lorsque le mot est lâché, le mot formation avec F majuscule, donc la prouesse des Lions de l'Atlas, ça peut mieux faire aller jusqu'au dernier carré, voire même remporter la finale, puisque l'information elle est fraîche. Les délégations africaines passent de 5 à 9 équipes en 2026 pour la prochaine édition, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Mexique. On peut dire que c'est une très très bonne nouvelle pour le continent africain ou pas?
Bon, dire une très bonne nouvelle, oui, parce qu'il y a plus de participants. Mais si c'est y aller pour faire de la figuration, c'est pas une bonne nouvelle. Je crois très sincèrement que ce qui a fait défaut à cette Coupe du Monde, c'est tout simplement la fraîcheur des joueurs. C'est le nombre de matchs effectués, vous savez que le nombre de joueurs est porté de 23 à 26. Ceux qui étaient dans le dernier carré, on peut quand même souligner qu'il y a eu pas mal de blessés chez eux. Et ça, forcément, ça influence le résultat.
Et il y a des invités qui sont sur le plateau, hein, je fais allusion à Alain Elio, un habitué, non, le consultant de l'émission. Il y a Manu Viallo aussi, hein, qui est un amoureux de l'équipe de France et en avant de Guingamp, toi-même qui avais joué dans les années 60 du côté de l'Agnon. Tu connais bien la Bretagne, hein, que tes cinq doigts de la main. Donc, ils vont te poser quelques questions. Moi, la première question que je vais te poser, donne-moi une lecture, un bilan de la dichotomie de l'équipe africaine concernant cette Coupe du Monde de football du côté de Qatar.
Je n'ai pas bien compris ta question. Le réseau n'est pas très bon, je n'ai pas bien compris ta question.
Non, mais nous non plus, on n'a pas tout compris.
C'est un grand classique. Je dis un bilan. Oui. Je nous fais un petit bilan des cinq délégations africaines concernant cette Coupe du Monde de football. Ouais.
Mais. Oui, un petit bilan de. Un petit bilan des cinq délégations africaines, oui. Mais c'est simple, c'est très simple. Et je dis bien, c'est très simple. On a eu le Maroc qui a terminé dans le carré, et personne n'attendait le Maroc à ce niveau-là. On avait beaucoup misé sur le Ghana, qui avait une certaine expérience. On avait également misé sur le... Moi, j'ai spécialement misé sur le Sénégal. Je pensais que le Sénégal pourrait faire mieux. Malheureusement, ils sont sortis rapidement. La Tunisie a été très bon, puisque la Tunisie s'est même payé le luxe de battre l'équipe de France. J'ai bien dit le luxe de payer de battre l'équipe de France. Non, que les équipes africaines dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, se sont bien comportées. Dans l'ensemble. Mais il fallait quand même passer à la vitesse supérieure. Et je continue toujours de dire, on ne va pas à la Coupe du Monde pour faire de la figuration. On va à la Coupe du Monde pour défendre ses chances et aller plus haut et apprendre quelque chose. Je suis content de dire que les équipes africaines nous ont montré, et le Cameroun, qui s'est même payé le luxe aussi de battre
le Brésil,
ça a montré que les équipes africaines, je dis bien les 5 équipes africaines, ont fait quelque chose d'assez correct dans l'ensemble. Mais je pensais quand même que le Maroc, en étant dans le dernier carré, pouvait encore espérer à aller en finale.
Éric Fabre, voilà. Éric Fabre, ce soir, on est vraiment flatté de t'avoir, parce que je sais que tu es également très attaché aux Côtes d'Armor, et en particulier à la Côte de Granit Grose. Je voulais forcément dire un mot sur l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Guy Stéphan. J'ai eu le plaisir de faire une émission spéciale juste avant, au début de la Coupe du Monde, avec Patrick Le Goff et avec Sylvestre Salvi, hein, qui ont accompagné Guy Stéphan durant son début de carrière à l'Avant de Guingamp. Guy Stéphan, c'est quelqu'un que tu connais bien, tu as peut-être croisé d'ailleurs sa route sur Lannion et sur Perros. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'immense parcours en fait de Guy Stéphan? On parle souvent de Didier Deschamps, mais Guy Stéphan, c'est un grand monsieur.
Ah, ça me fait plaisir qu'on me donne la chance de parler de Guy Stéphan. Guy Stéphan, je le connais très bien. Nous avons joué au football ensemble. Nous avons eu le même formateur qui est Claude Perrard. Avant Claude Perrard, nous avons eu Pierre Vercel, qui vit encore, Jean-Pierre Vercel. Guy Stéphan a fait un parcours phénoménal. Et je crois que Guy Stéphan, je ne le crois pas, j'en suis persuadé, Guy Stéphan est d'abord quelqu'un de très sérieux dans la conduite. Je dis, quand on l'a eu comme parrain Claude Perrard, on a vraiment des chances de réussir. Et je me rappelais, après les entraînements, après les matchs, nous, on était très jeunes, on prenait soit notre Diabolo citron, notre Diabolo menthe. C'était quelque chose de formidable. Guy Stéphan a eu la chance, également, dans son parcours, de croiser le chemin de Didier Deschamps. Mmh. Et depuis qu'ils sont ensemble, ils ont fait des miracles. Et même jouer pour moi la finale de cette Coupe du Monde, c'était un miracle pour moi. Je ne voyais pas l'équipe de France à ce niveau-là.
Et Éric Fabre, vraiment, je suis super content de t'avoir ou de vous avoir. Tellement j'ai de respect, j'ai envie de vous voir. Alors que sur cette émission, on se tutoie. Hein, c'est le football et le sport qui nous rapprochent.
Il n'y a aucun problème.
Mais Éric,
il n'y a aucun problème.
Tu viens de citer un personnage central dans le football en Bretagne et en Côte d'Armor. C'est Claude Perrard. Parce que Claude Perrard, malheureusement, nous a quittés cette année. C'est une année noire pour certains entraîneurs. Je pense notamment à Philippe Guibert, qui lui était du côté de Paimpol. Mais c'est vrai qu'on a eu des grands techniciens qui sont partis, et Claude Perrard en était un tout particulier. Quels sont les souvenirs les plus importants que tu pourrais partager? Je voudrais quand même dire que tu avais eu cette attention vraiment extraordinaire avec Jean-Yves Ogel, hein, lorsque tu avais remis un maillot de l'En Avant de Guingamp à Claude Perrard, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, je te laisse parler de Claude Perrard.
Ben, le Claude Perrard, pour moi, je le redis encore, j'étais à son enterrement. Claude Perrard, c'est un grand monsieur, je dis bien un très grand monsieur pour moi, il m'a marqué à vie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée pour ses 90 ans, en appelant quelques anciens de Saint-Joseph, puisque c'est là où on était, en leur disant, mais il faut qu'on fasse quelque chose, et on a eu l'idée de remettre ce maillot avec un numéro 90 au dos à Claude Perrard pour ses 90 ans. Mais malheureusement, Claude n'a pas vécu plus longtemps. Il nous a laissé au moment où on ne s'y attendait pas le plus. Voilà, Claude a laissé un souvenir énorme, je dis bien énorme, énorme à moi. Il m'a formé. Ce que je suis devenu aujourd'hui, je lui dois ça aussi en grande partie, parce qu'il n'y avait pas que le football, il y avait l'homme. Et apprendre aux jeunes de jouer au football, de devenir homme, c'est plus important que de leur apprendre de taper seulement dans le ballon.
Alain Héliot, qui est notre consultant maison du ballon, on voulait te poser quelques questions aussi à Éric Fabre depuis Lomé au Togo.
Non, je pense que je ne peux pas poser trop de questions. Mais je connais... Ben, j'ai entendu parler d'Éric Fabre. Moi, je suis un peu plus jeune. Et bon, j'ai connu Claude Perrard aussi, mais j'ai entendu Claude Perrard. Et autrement, j'ai côtoyé moi, Philippe Guébert, j'ai côtoyé Sylvestre Salvi, tout ça. Donc, je suis arrivé un petit peu après. Mais par contre, je pense... Ben, je pense, c'est pas le bon mot, c'est des gens qui ont marqué le football costa-ricain. Et bon, ben c'est, ils nous ont apporté un plus. Et après, ben c'est, je peux rien dire de ça.
Il y a Manu Vialet aussi qui est un habitué de l'émission Africa 22 Sports. Vous voulez te poser ou te faire quelques suggestions concernant la belle discipline qui est le ballon rond?
Oui, bonsoir Eric.
Bonsoir.
Je voulais juste revenir un peu sur le football africain et puis cette Coupe du Monde, on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Je voulais savoir comment tu vois l'avenir du foot africain au niveau mondial dans les prochaines Coupes du Monde. Yahou a évoqué là le passage de 5 équipes à 9. Et qu'est-ce qui manque aux équipes africaines vraiment pour rivaliser avec les équipes jaunières, atteindre au moins le carré comme a pu faire le Maroc?
Ben, le football africain est pour moi en pleine mutation. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un, un ancien, Jimmy Adolivoko qui a joué à Lens, Jimmy qui est avec nos Black Stars, il est revenu au pays maintenant et il aide son pays à réorganiser le football. Le football africain tout en ayant des beaux jours, traverse quand même une période délicate. La période délicate, c'est quoi? C'est que vous prenez les équipes africaines aujourd'hui, la majorité des joueurs africains sont formés en Europe, sont formés plus précisément en France. C'est une bonne chose pour eux, et c'est une bonne chose qu'ils viennent jouer pour le pays. Mais pendant ce temps, le football africain qui se déroule sur le continent fait quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Et ce football-là, pour moi, aujourd'hui, n'est pas à sa vraie place, sauf dans des pays maghrébins comme le Maroc, et on l'a vu tout dernièrement, l'Algérie qui fait également, qui, au niveau de la formation, y a jeté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le Cameroun, vous prenez le Cameroun qui a battu le Maroc, la majorité des joueurs camerounais évoluent à l'extérieur. Donc, partant de ce principe, ce sera toujours difficile pour le football africain. Vous, qui êtes de la Bretagne, quand Laurent Pokou est arrivé à Rennes, ça a été un événement. Salif Keita est arrivé à Saint-Étienne, ça a été un événement. On n'a plus de ces joueurs qui quittent le continent pour venir en Europe. On a plutôt des jeunes, je dis bien des jeunes footballeurs qui quittent l'Europe pour venir jouer pour leur pays. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un malaise quelque part. Et ce malaise, c'est tout simplement aux fédérations, je parle des fédérations d'abord, de faire un rapport à leur ministre de tutelle, ministre de la Jeunesse et des Sports, pour que ces derniers prennent leurs dispositions afin de faire évoluer le football local. Je continue tout simplement en disant, tous les pays, les 5 pays qui ont représenté le continent africain, dans ces 5 pays, il y a un championnat correct qui s'y déroule. J'ai bien dit un championnat correct. Il y a un calendrier qui est établi en début de saison, comme en France, et on le respecte. Ici, bah, il y a des aléas. Des fois, on arrête tout parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On ne peut pas progresser en étant aussi léger. Je dis en étant aussi léger, et je pèse mes mots.
Éric Fabre. Vraiment, le président de Black Star, l'association qui regroupe les anciens internationaux africains. Et ça me fait plaisir. Tu as tout résumé parce que lorsqu'on parle d'abord des équipes africaines, moi j'ai dit, j'avais évoqué pendant la Coupe du Monde la dernière fois, c'est manque de rigueur concernant les équipes subsahariennes. Et tu as évoqué un mot aussi, la formation avec F majuscule. Parce que les résultats de tous ces pays maghrébins, c'est pas un hasard, c'est pas une surprise. C'est le travail. Le reflet d'une équipe nationale, c'est son championnat. Lorsqu'on voit la Liga, on voit la Liga, on voit la Serie A, on voit du Premier League, ce n'est pas par hasard, c'est le travail. Et là, ça nous fait énormément plaisir quand tu as évoqué tout à l'heure Claude Perrard. Il y a 2 ans, on était partir le rendre visite chez lui du côté de Perros et tous tes anciens camarades de classe aussi que vous avez joué du côté de Lannion dans les années 70. Donc ça nous fait énormément plaisir. Tu connais bien ta Bretagne et tu passes quand tu veux et essaie de nous envoyer le soleil du Togo vers la Bretagne et ça va nous faire énormément plaisir, Eric Fabre.
Quand il a pris la petite équipe de Loinec, il a hissé jusqu'en division d'honneur. Quand il a pris l'US Perros, moi je jouais avec lui, à 42 ans, Claude Perard était sur le terrain avec nous. Mais on était avec Guy Stéphane, on est d'autres aussi, il y avait le Pat Sylvestre, son frère Didier, qui était avec nous aussi au zéro départ, mais on est quand même arrivé en division d'honneur aussi. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, la DH, c'était le summum, le summum des amateurs.
C'est ça, ouais.
Ouais, et la Bretagne était bien représentée. Les matchs de Coupe de France, ah ben c'était une attraction. Donc Claude a apporté beaucoup à cette région de Bretagne, à cette région des Côtes du Nord, que nous appelons maintenant les Côtes d'Armor. Ça me fait plaisir que vous lui rendez cet hommage.
Et je voudrais juste, pour conclure, dire que dans quelques jours, on aura un événement sur l'Agnon qui est la réception de Toulouse en Coupe de France. Une rencontre qui aura lieu au stade de Roudourou. Donc ça va être vraiment un très, très grand événement. Alors je crois par contre que, je ne sais pas s'il nous entend toujours. Eric, tu es toujours avec nous ? Non, Eric n'est plus là.
On va le recontacter tout à l'heure. Ouais. Oui, donc.
Ah, si, Eric est là.
Oui, je suis là, je vous entends. La réception de Toulouse.
Oui, la réception de Toulouse, ça va être un grand événement pour l'Agnon. Oui, Eric. Alors, je crois qu'on a perdu Eric.
Oui. Je suis là.
Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cet événement Coupe de France de l'Agnon contre Toulouse?
Mais ça va être quelle date? Alors, la réception de Toulouse?
C'est tout début janvier, le premier week-end de janvier. Voilà, 8 janvier, au stade de Roudourou. Ça va être énorme comme événement. Et c'est, je crois que pour le club de Lannion, hein, que je rappelle, hein, le FC Lannion, qui est la fusion entre l'ancien stade lannionnais et l'US Lannion, hein, c'était des grands clubs, hein, dont sortait stade lannionnais avec Guy Stéphane, hein, et Claude Perard également. On en parlait un instant. Donc c'est, voilà, un grand, grand pays de football, le pays de Lannion.
Déjà.
Merci.
Mais le football a toujours ses surprises. Mais Toulouse est un gros morceau pour l'Agnon. Et si vous me demandez mon sentiment, j'aimerais que l'Agnon crée la surprise. Je le dis tout de suite. Mais merci. L'Agnon serait-il à la hauteur de créer la surprise? Ça, ce serait autre chose. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 90 minutes, tout est encore possible. Je suis de tout cœur avec l'Agnon.
Merci beaucoup, Eric Fabre. Merci infiniment. On va passer tout de suite à notre deuxième invité qui nous attend, hein, avec qui va nous parler, lui, cette fois-ci, de l'Argentine. Merci beaucoup, Eric Fabre.
Merci.
Voilà, Yao, je te laisse faire une petite liaison avec nos invités.
Mais merci Eric, on voulait avoir coûte sa réaction puisque il était quand même imbibé dans le football breton dans les années 70 et maintenant il pilote l'association des Black Stars. Et Alain, je voulais avoir ta réaction chaud après. Gaël va prendre le relais pour son invité téléphonique concernant une autre discipline. Concernant la réaction d'Eric Fabre, concernant justement Claude Perard, j'ai eu cette chance avec Eric Fabre d'aller lui rendre visite. Il m'a beaucoup parlé de ce grand monsieur du football breton. Je voulais avoir ta réaction, tu as déjà entendu parler de c'était Claude Perard.
Ah oui, j'ai entendu parler. Et en fin de compte, je réfléchissais en entendant tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de jouer contre l'Agnon,
bien sûr,
Stallionnais en D4,
ouais.
Donc division 4, donc une division au-dessus de la DH, et l'US Perros aussi.
Bien sûr.
L'US Perros a été en division 4. Et donc, c'était, ça émanait de Claude Perrin. Maintenant, je ne peux pas juger Claude Perrin, parce que je ne l'ai pas connu, donc je ne vais pas raconter de sottises. Mais par contre, le Trégor, est, ah, ou le, oui, le Trégor, ouais. La région léonaise a été très marquée. Ils ont joué en division 4, c'était un bon niveau. Après, bon, Guingamp a pris le dessus. L'Argoat a pris le dessus. Mais par contre, bon, c'est arrivé à un très bon niveau. Puis ça reste toujours un très bon niveau. Lannion est en National 3. Perrault, ça a descendu un petit peu. Ils sont associés avec Louhannec. Maintenant, ils commencent à remonter aussi. Donc, bon, c'est bien, c'est cette région, c'est une région de football. Et puis, un bois, c'est tout.
Ouais, on va passer avec cette petite musique qui nous plaisait bien hein, la semaine dernière. C'est la musique de la Coupe d'Europe avec tout de suite notre invité pour parler de la Coupe d'Europe de rink hockey. On va changer de discipline espace de quelques instants avec Sergio Burgoa. Bonsoir Sergio.
Bonsoir.
Ça fait plaisir d'entendre ton accent argentin. J'imagine que pour toi le week-end dernier ça a été une grande fête pour cette victoire de l'Argentine.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, vous connaissez bien que nous, c'était un pays, l'Argentine, qui aime beaucoup le foot. C'est le sport le plus important pour nous. Et voilà, ouais, c'est normal qu'après, on a passé une soirée énorme pour nous. Bien sûr, bon, c'est ça. C'est ça tout le temps.
Donc, vous avez fait de la fête toute la nuit, là où tu te trouves, en famille, j'imagine?
Oui, bien sûr. Après, voilà, ouais, c'est normal. Et c'est la communication par téléphone tout de suite de mon frère, de ma soeur, ouais, voilà, ouais, des amis, bon, ou après, bon, aussi des amis français qui me sont appelés pour féliciter, bien sûr, ouais, ouais, pourquoi un petit problème, ouais, c'était un match, à la fin, c'était un sport, ouais, voilà, on était contents, on a parlé, on a discuté avec les amis français, on a discuté, voilà, sur le match, qui était énorme, mais voilà, et bon, des fois, quelqu'un qui dit c'est très bien mérité, des fois, quelqu'un qui dit que non. Voilà, c'est normal, ouais, c'est un sport.
Ouais. Dis-moi, Sergio, on a vu des images, beaucoup d'images, hein, sur Buenos Aires, hein, qui est la plus grande ville d'Argentine, la capitale. Pour ta part, tu es originaire de San Juan, là où il y avait le dernier championnat du monde de rink hockey. Là-bas aussi, à San Juan, c'était les fusions?
Oui, bien sûr, il était partout l'Argentine, ouais. Oui, tout le monde il a sorti à, ouais, qui s'appelle pratiquement à Buenos Aires, c'est l'Obelisco, que c'est la place, on va dire la place principale de Buenos Aires. Nous, il y a une place aussi très très principale de San Juan, ouais, où tout le monde va là-bas quand l'Argentine gagne tout le temps. Voilà, ouais, je me rappelle aussi del 86 quand l'Argentine était champion. J'étais très petit avec mon père, ma mère, qui on était sur la place principale. Il était plein de personnes. J'imagine que cette année, il était encore plus. Quand maintenant, il y a plus de diffusion, il y a d'internet, il y a plein de choses que voilà, c'était plus simple. Ouais, voilà, c'était énorme pour nous. Ouais, bien sûr, une ville que, bah, un pays qui il passe économiquement très, très compliqué. Il est en crise très, très compliquée. Quand je parle tous les jours avec des amis, des parents qui sont pratiquement pas très bien au niveau économie, mais même ça, c'est petit oxygène pour les gens qui très mal, c'est ça.
L'Argentine est un grand pays de sport, c'est le plus grand pays du rink hockey, puisque l'Argentine vient de remporter le dernier championnat du monde. On va revenir hein, sur ce paramètre rink hockey, parce que c'est quand même pour ça que je voulais t'avoir ce soir. Le fait d'avoir une équipe nationale dans ton sport, du rink hockey, qui soit champion du monde, je pense que ça t'a fait immensément plaisir aussi lors de ce mois de novembre, début novembre.
Oui, c'est ça, ouais, après c'est un principe pour moi, quand je connais pratiquement non, je connais tous les stages aussi avec tous les joueurs, bien sûr, ouais, la majorité de tous les joueurs de l'équipe nationale, ils sont de chez moi, d'accord, de ma ville, c'est pour ça que pratiquement, on va dire 90%, c'est tous les joueurs, ils sont de San Juan, d'accord, après, voilà, faut accepter aussi que le 100% des joueurs, ils jouent à l'extérieur. D'accord, ils sont tous pour l'Espagne, Portugal, Italie, voilà. C'est ça, c'est appelé bon. Ouais, je suis très content, bien sûr, pourquoi pas. Hein.
Ça a été une grande fierté, j'imagine, pour toi, de revêtir le maillot de la sélection nationale, puisque tu as été international argentin.
Oui, bien sûr. Ouais, je suis joué le mondial en 2003, aussi la Coupe de la Nation, je me rappelle, 2001. Ouais, je suis été appelé présélectionné plein de fois, voilà. Oui, c'est énorme. Pour nous, un sportif, je pense que pour toutes les personnes qui font des sports, Après, tu devais aller représenter ton pays, c'est énorme. Nous, je pense qu'il y a un vitamine plus à cause de ça, parce que nous, on est très, très passionnés de sport. Il n'y a pas tout le monde qui a des possibilités. Après, quand tu entres en équipe nationale, après, tu commences à appeler, con le temps, pas sur le moment, sinon après, con le temps, tu commences à comprendre que ce n'était pas facile d'arriver. Quand tu regardes qu'il y a plein de personnes qui font le même sport que toi, et tu as la chance, peut-être aussi l'envie d'arriver et de représenter ton pays, ce n'était pas facile.
Ouais. Tu connais les deux cultures françaises et argentines sur le bout des doigts. Quel est le rapport, qu'est-ce qui change finalement ce rapport à la sélection nationale? Et est-ce que la fierté de porter le maillot argentin est bien plus forte qu'en France pour porter le maillot français? Est-ce que vraiment, toi, tu as pu constater ce paramètre-là?
Mais pas justement de la France, je pense que aussi de toute l'Europe. J'ai habité beaucoup d'années aussi en Espagne, aussi je suis joué en Italie. Et c'est vrai que, voilà, ouais, quand tu arrives de l'Argentine, tu arrives à l'Espagne, quand je suis arrivé la première fois, mais tu as l'impression de que tout le monde est espagnol. Ouais. Quand tu arrives là-bas, tu comprends que c'est pas comme ça. Il y a les Catalans qui sont Catalans, il y a les personnes de Madrid qui sont espagnols, il y a le nord de l'Espagne qui sont considérés de Galicia, ouais, voilà. Aussi à la France, je suis arrivé, au moment que je suis arrivé, voilà, j'ai pas vu comme Espagne, vraiment. Je trouve qu'ils sont très passionnés, ouais, bien sûr, ouais, y a pas, pourquoi on n'a pas dit fond. Ouais, ouais. Après, bon, nous, à l'Argentine, c'est un truc de malade. Ça, c'est la vérité. Bueno, nous, on est vraiment malade de sport, on est malade de maillot, on est malade de mon équipe. Et voilà. Bueno, nous, on a beaucoup, c'est faut accepter. C'est, on est vraiment malade de sport.
Ouais. C'est la passion à l'état brut. Bon, on va revenir sur cette Coupe d'Europe du week-end dernier, parce que c'est vrai que c'était un sacré événement pour toi et pour toute l'équipe du SPRS de Ploufragant, avec un mini tournoi, on va dire, avec trois équipes. Une défaite pour commencer contre Alcoy, le club espagnol qui était le grand favori. Et puis une victoire malgré tout contre Genève au tir au but. Bon, j'imagine que l'objectif était sans doute de se qualifier, mais c'est déjà pas si mal d'avoir gagné contre Genève qui est une très belle équipe en Suisse.
Oui, bien sûr, comme tu as dit, ouais, le favori, il a marqué la différence, ça c'est sûr. Ouais. Alcoy, il entrait là et après, voilà, il était largement, on va dire largement, un petit peu supérieur à nous, bien sûr. Faut accepter la réalité, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un petit test pour savoir qu'encore il manque de boulot, qu'on n'est pas encore sur le même niveau et que voilà, qu'on devait continuer à travailler. Il y a plein bon en Genève, c'est vrai, on a trouvé une équipe très, très, très costaud. Ouais. Même moi, personnellement, je pense qu'on est un petit peu supérieur. Après, voilà, c'est très facile de parler, après, il faut démontrer sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas fait un bon match avec Genève. Et c'est ça qu'on lui a donné l'opportunité d'entrer sur le match à Genève. Et après, voilà, il s'est compliqué le match un petit peu. Et voilà, à la fin, on est égalisé. Et après, on est entré sur penalty, sur confront direct. Et après, bon, on a marqué la différence avec ça.
Sergio, tu as pris en main le groupe de Ploufragant depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui manque, selon toi, pour vraiment passer un cap? Parce que je sais que tu as forcément de grandes ambitions pour Ploufragant, et Ploufragant également est un club qui se donne les moyens.
Bon, dès que je suis arrivé, bien sûr que ce que je suis trouvé, c'est énorme. Ouais, j'ai jamais imaginé que j'ai pu trouver un truc comme ça, quand tu regardes à niveau de stage, de directif, le club aussi, même l'organisation, moi je ne suis pas trouvé beaucoup de différents, d'accord, ce que je suis travaillé avant, d'accord, bien sûr, je pense que ce qui manque, c'est faut croire, faut envie de voir que c'est possible, d'accord, je pense que c'est ça, c'est ce que je suis gardé, après voilà, ce que je suis parlé, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui à demain, c'est un travail très, très doucement, petit à petit. Faut sélectionner bien les pièces pour aller aller chercher les joueurs vraiment qui manquent. Parce que, comme je dis, il y a le club, il y a pas mal de joueurs, il y a aussi de très, très bons joueurs, qui aussi, pourquoi pas, quelques années, on peut gagner quelque chose.
Ouais. Alors gagner quelque chose, justement, ça sera peut-être l'occasion de faire un, comme on dit, un coup, puisque la prochaine rencontre du SPRS de Ploufragan, ça sera en Coupe de France. Coupe de France dont je rappelle, tu es le détenteur en tant qu'entraîneur, puisque l'an passé, tu étais le coach du HC Quévert qui a remporté cette compétition. Cette fois-ci, donc, c'est un huitième de finale retour qui aura lieu à salle de Glénan à Ploufragan contre Quintin. C'est jamais évident de remporter ce genre de derby.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, on a marqué la différence au match aller, mais ça n'a rien passé encore. Ouais. Il reste encore le match retour. Ouais, bien sûr qu'on a marqué la différence, bien sûr que si on arrive à contrôler le match, bien sûr qu'on va passer à quatrième finale, ça c'est sûr. Mais après, bon, il faut jouer le match premier, il ouais, faut gagner premier, et après, voilà, on pense en quatrième finale.
Voilà, huitième de finale qui précédera, j'espère, hein, en cas de qualification, le quart de finale, c'est-à-dire la possibilité d'accéder au Final Four. C'est vraiment un objectif pour toi cette année d'essayer de faire un coup et d'atteindre ce Final Four?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça un petit objectif. Voilà, moi personnellement, je me mets la pression tout seul. C'est ça, il n'y a personne qui ne m'a pas mis la pression. Mais moi, c'est tout seul qui me met la pression. J'ai dit que l'objectif pour moi... Même aussi, j'ai commencé à mettre pression les joueurs, bien sûr. C'est mon boulot. L'objectif de moi, c'est arriver à Final Four, bien sûr. Et je pense que si je le dis, c'est parce que je pense qu'on a la qualité pour arriver là, juste là. Après, bon, mais bien sûr, il faut voir aussi qu'on va trouver surface, que je pense qu'on va, a priori, on va trouver à Coutra. D'accord, ben normalement, a priori, on va trouver à Coutra. Et voilà, Coutra, c'est une équipe très, très costaud. Il y a beaucoup d'expérience de tournois comme ça. Et voilà, c'était pas très facile.
Bon. Radioactif sera près de vous, près du RSPRS, pour retransmettre ce quart de finale, hein, en espérant qu'il se passe mieux que l'an passé, puisque c'est vrai que c'était le club de La Roche qui l'avait emporté face au SPRS. Mais moi, je crois dur comme fer à une performance cette saison du SPRS. Merci beaucoup, Sergio Burgois, d'avoir été présent avec nous sur Radioactif. Et puis, passez d'excellentes fêtes de fin d'année à toi comme à tous tes joueurs.
Oui, oui, c'est pareil aussi. Bon fête pour tout le monde. Voilà, Radioactif, bien sûr. Merci pour appeler-moi, pour compter avec nous. Voilà, c'est un sport très petit, mais même, on est là. On est là. On essaye encore de monter plus le niveau. Et voilà, c'est ça l'objectif de la France. Rien que français. C'est monter encore plus et aller plus loin encore.
Merci, Sergio. Bonne soirée et bonne fête de fin d'année.
Non, merci à vous, merci.
2, 1, 2, 3, 4.
Et oui, mon Yao, c'est ce générique qui nous a bercé pendant toute cette année. On sait pourquoi il est ce générique, hein. La situation en Ukraine est quelque chose qui nous a touchés pendant toute cette année. On continue de penser à eux. Et puis, Give Peace a Chance, c'est également les peuples qui se réunissent et le sport est là pour ça. Et avoir Sergio Burgoa ce soir, un fidèle supporter de l'équipe d'Argentine, un Argentin qui a porté le maillot de la sélection, ben voilà, je pense que c'est quelque chose qui est tout particulier et qui nous ressemble.
Vraiment fait le bon choix, Radiophonie, puisque écouter la voix de Sergio Burgois du côté du rink hockey, vraiment c'est ça qui donne le côté du 8e œil de l'araignée. On essaie de toucher toutes les branches sportives et le dénominateur commun reste la passion et vraiment l'échange à travers toutes les disciplines. On le dit big up, puisque le 16 janvier face à Quintin, ça sent un bon derby et Radioactive sera sportivement présent puisque tu pilotes très très bien cette discipline. On essaie de provoquer d'autres disciplines aussi au profit du plaisir. Vous êtes bien dans votre émission, 18h47, les invités vont prendre le relais en commençant par Alain Elio. Alain, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment? Un petit bilan de cette Coupe du Monde qui vient de terminer, les forces et les faiblesses, et puis quelle qui t'a séduit et qui est celle qui t'a moins séduit. Bon, grosso modo, ton ressenti pour cette Coupe du Monde.
Mon ressenti, c'est...
On m'entend bien là ?
Ouais, c'est
ça,
bien.
Va bien.
Impeccable.
Mon ressenti, c'est qu'on a eu une très belle Coupe du Monde. Pourquoi on a eu une très belle Coupe du Monde ?
Je pense que, contrairement à ce qu'on disait initialement, que la Coupe du Monde a été... C'est passé en novembre-décembre. Mmh. Et en fin de compte, les joueurs, ils sont prêts en novembre-décembre. Et au mois de juin, quand la Coupe du Monde a lieu, ils ont vécu une saison entière. Mmh. Et généralement, ils sont fatigués. Après, c'est vrai qu'ils ont une préparation, mais ils ont eu la Champions League, tout ça. Mmh. Et ils n'ont pas autant de jus. Là, on a vu de gros matchs cette année. Mmh. On a vu de gros matchs. On a battu le record des buts.
C'est vrai.
Hein, on est passé à 172 buts. En 2014, on avait marqué 171. C'est vrai, on les a battus d'un but. Et en 98, 171 aussi.
Donc, ah, c'est fou.
On a marqué des buts. Mais moi, j'ai vu du bon jeu. Hein. C'est vrai que j'ai vu de beaux matchs. Ben, à l'image de la finale. La finale, on peut l'analyser très vite aussi, parce que je l'ai vu trois fois.
Anthologie, ouais.
Ouais. Je l'ai vu trois fois, donc je peux l'analyser.
Ah, ça veut tout dire, ouais.
Donc, j'ai entendu beaucoup d'échos. La France n'a pas joué pendant 70 minutes. C'est pas vrai. Je veux vous dire, le premier quart d'heure, il est équilibré. Après, quand on a pris le premier but, de la 18e à la 45e, on a été dominé. Ça, c'est vrai, on a pris deux buts, 2-0. Mais la deuxième mi-temps, du début de la deuxième mi-temps à la fin, on a été, d'abord, on les a équilibrés, on est revenu dans le match. Et à partir de la 70e, on est devenu plus fort. On aurait dû gagner cette Coupe du Monde. Hein? Par contre... On pourrait dire qu'on ne la méritait pas, mais on aurait dû la gagner.
Ouais, hein? C'est vrai.
On a eu les occasions. On a eu, on a eu le 2-2, le pénalty de Mbappé, le deuxième but, bon, que magnifique. Faut admettre qu'il va falloir comprendre que Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Mais je ne sais pas si les Français vont le comprendre un jour, mais il devient le meilleur joueur du monde et on a encore du mal. Parce qu'on va nous dire qu'il n'a pas joué pendant 70 minutes. C'est ça?
Alors ça, c'est exactement ce que tu dis est tout à fait vrai. Souvenons-nous des matchs de Zinedine Zidane qui étaient loin d'être complets. Oui. Les matchs de Platini, c'était pareil. Un grand joueur, il peut pas être toujours à fond. À un moment donné, tu as besoin de jauger ton adversaire, de jouer un ton en dessous pour mieux le surprendre.
Ouais, puis il faut l'alimenter. Donc notre milieu de terrain a été déficient. Après, on va pas critiquer Griezmann qui a fait une excellente Coupe du Monde. Il a raté un peu sa finale, il a raté, mais c'est pas grave.
C'est des choses qui arrivent. Ouais.
Alors donc, en fin de compte, je pense, moi je suis déçu. Je suis déçu parce que je pense qu'on devait la gagner. On a eu les possibilités de la gagner en fin de temps réglementaire sur un centre de Mbappé. Si Colomouani se hausse un petit peu la marque de la tête, c'est facile de dire avec Dessy. En fin de prolongation, on a l'occasion pour gagner. Colomouani, il a super bien joué. Hein. Je regardais plusieurs fois sa frappe. Le gardien Martinez fait un super pareil. Ouais. Donc, on peut être que. On est déçu. Moi, je suis déçu du résultat, mais après, on sait pas. C'est un sac pour Messi. Mais en fin de compte, on le voulait. Moi, je pense que la Fédération mondiale, Infantino, tout ça, il voulait que Messi soit sacré. Parce que je voudrais quand même remettre des choses.
Allez, c'est lourd.
Je donne mon point de vue. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais j'ai revu c'est pour ça que j'ai revu trois fois la finale, pour analyser un petit peu les choix d'arbitrage. Il y a eu trois fois, l'arbitre a sifflé des fautes en faveur des Français. N'a pas laissé l'avantage. Surtout une fois.
Ouais, c'est vrai.
Si on laisse la France jouer après, laisse l'avantage, on était à 4 contre 3. Donc on avait une occasion. Pour moi, l'arbitrage n'a pas été très bon. Mais bon, après. Ouais. Et la VAR n'a pas été présente. Mais sur beaucoup de sujets.
Pas Alain, sur... Alain, oui. Si on gagne, tu en parles de l'arbitrage?
Oui. Oui, je parle de l'arbitrage.
C'est un débat éternel.
Celui qui perd, il va toujours dire.
Non. On n'a pas perdu par l'arbitrage. Mais par contre, je trouve que l'arbitrage, il a été. On voulait que l'Argentine gagne. Ça, je suis sûr et certain.
Je vais rebondir avec cette petite question pour Manu, parce que est-ce que finalement la France n'est pas plus attachée à une équipe version Poulidor qui fait à une Coupe du Monde extraordinaire, mais qui n'accroche pas cette. En fait, est-ce qu'on n'est pas les meilleurs perdants du monde?
Ah non.
Je pense pas qu'on
va la réaction. On va demander à Manu.
Je pense pas qu'on soit les meilleurs perdants du monde. Enfin, je rejoins Alain, on était, je pense que vu de l'effectif qui a été diminué depuis le début avec les 6 ou 7 absents qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, Didier Deschamps a fait un sacré travail avec l'effectif qu'il avait à sa possession. Et on atteint la finale, et pour moi, on devait la gagner. Pourquoi on l'a pas gagné, bon, Alain a analysé, détecté avec précision cette finale. Moi, j'ai pas eu cette opportunité de le faire, mais de ce que j'ai ressenti, c'est que on a senti que les Français étaient pris par cette finale, que émotionnellement ils étaient, il y avait un blocage. Alors on parle, oui, d'Mbappé, on pense que à lui tout seul il pouvait mettre les 11 Argentins au tapis. On attend beaucoup de cet homme parce que dès qu'il a le ballon, et ben, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ben, il a mis 3 buts, et je vais dire 4 parce qu'il a mis son penalty aussi. Donc, cette finale,
Il a marqué 2, c'est Di Maria qui marque le deuxième but. Messi.
Non, je ne parle pas de Messi, je parle de Mbappé. Je disais qu'on attendait, on attend beaucoup de Mbappé. Et moi le premier, parce qu'on sait très bien que quand il est à l'approche de la surface, ça fait mouche, quoi. Moi je suis déçu de cette défaite. Je veux pas dire que c'est la faute de l'arbitrage, si on pense un peu à ce qui s'est passé pendant la demi-finale, où ça a été très laborieux. Contre les Polonais, on a eu aussi une période d'absence. Donc je pense qu'on peut s'estimer heureux d'être en finale, et d'avoir été battu. Je vais pas dire par les meilleurs, mais de peut-être pas l'avoir gagné.
Ce que Alain a dit tout à l'heure, moi je suis pas du tout d'accord. Moi je dis la seule personne qui est raison dans cette
situation. J'aime bien ces petits débats là entre amis.
La seule personne qui est vraiment raison dans ce débat, je crois que c'est une question de lucidité au niveau du terrain. Parce que au niveau de l'arbitrage, moi je vais pas me prononcer question de l'arbitrage, mais on a vu, ça c'est mon humble avis et mon noble opinion, que on commence à se réveiller à partir de 75e minute, parce qu'au niveau du match en intégralité, ça c'est mon humble avis. Au niveau de l'intégralité, heureusement, comme tu disais tout à l'heure, Manu, qu'il y avait un certain Mbappé. S'il n'y avait pas ce Mbappé-là, je crois, à mon humble avis, à mon humble opinion, que ça serait encore plus fatal. Moi, ça, c'est mon point de vue. Donc, au niveau de l'arbitrage, ou peu importe, moi, je dis, j'ai pas reconnu notre équipe nationale avant la réactivité à partir de 75e minute. Moi, j'ai trouvé vraiment transparent. Il y a eu quelque chose qui s'est ressuscité sportivement à partir de 75e minute. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il y a la potentialité de cette belle équipe. En moins de 3 minutes, en moins de 5 minutes, marqué 2 buts.
Oui, mais il n'y a pas que.
Ça, c'est mon point de vue, ça.
Il y a eu le réveil aussi, je vais dire, de Didier Deschamps, qui s'est permis de faire. Il a vu quand même qu'il y avait un manque ou un point faible, où il se passait quelque chose qui ne tournait pas rond dans l'équipe. C'est de sortir 2 joueurs à la 40e, quoi. Alors, je ne veux pas dire que les joueurs qui sont sortis étaient plus mauvais que les autres, mais il y a eu quand même. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon équipe.
Alain, puisqu'il nous reste 4 minutes pour parler des autres équipes aussi vite fait.
Je ne suis pas chauvin, mais moi je dirais que ce n'est même pas la réaction de Didier Deschamps, c'est la réaction de Guy Stéphane. Rappelez-vous, c'est lui qui était de... Quand il y a eu les changements à 35e, ça s'est fait à 40e, la personne qui discutait, qui était debout, c'était Guy Stéphane. Didier Deschamps était assis, il était anéanti. C'est Guy Stéphane qui a orienté Didier Deschamps. Les deux changements qui ont été faits à la 40e.
Bon, en disant ça, tu enlèves le mérite de Deschamps, mais un bon entraîneur, c'est aussi celui qui sait s'entourer.
C'est ça, exactement, c'est une victoire de binôme.
C'est ça.
Mais rappelez-vous, regardez l'image. Oui. Regardez l'image.
Et Manu, vite fait, il nous reste 3 minutes. Les autres équipes, je fais allusion comme l'équipe d'Angleterre, qui ont été là vraiment à Manu et Alain aussi. Tu avais parlé la beauté du spectacle du football anglais, et les autres aussi qu'on n'attendait pas, le côté Arabie Saoudite qui a aussi, on ne dit pas surprise, pour moi la surprise n'existe pas dans le sport, ça s'appelle le travail, qui a gagné contre le tenant du titre actuel depuis une semaine à un certain Albi Céleste. Je voulais avoir ta réaction vite fait concernant ces équipes qui ont marqué leur coup concernant cette Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai que l'Angleterre, c'est une équipe qui, je pense, au prochain Euro, risque de faire très mal s'ils continuent à croire en leur capacité. Après, il y a le Maroc, quand je les ai vus jouer encore, même pour la troisième place.
C'est ça.
Ils méritent autant que la Croatie cette médaille de bronze. Franchement, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris par leur prestation. Alors, on parle de ces équipes qui nous ont surprises, mais moi, des équipes comme le Brésil, qu'on attendait plus haut. En fin de compte, ils n'ont pas gagné énormément de matchs.
C'est ça.
Ils ont gagné deux matchs de poule. Ils en ont, ils ont gagné leur huitième. Ils ont été battus par le Cameroun. Ils sont sortis par la Croatie. C'est vraiment, pour moi, la grosse déception. Après, l'Espagne.
Et Alain, un dernier mot, puisque pour finaliser, concernant ce grand événement planétaire qui vient de terminer il y a une semaine, sur cette Coupe du Monde, vite fait.
Ce que je remarque aujourd'hui par rapport au comportement. Le comportement, il y a eu des comportements qui ont été quand même pas très, très bons. Le comportement des Tunisiens qui suivent la Marseillaise, ça m'a pas plu du tout. Et le comportement des Argentins, si vous regardez un petit peu dans l'histoire, on peut comparer l'Argentine aux Belges. Les Belges, en Europe, on rit d'eux, hein, on se moque d'eux. En Amérique latine, on fait la même chose des Argentins. Pourquoi on se moque des Argentins? Parce qu'ils ont un ego. Et vous regardez, hein, j'avais su ça il y a 4 ans.
D'accord.
Et il y a un ego. Et là, quand je vois ce qui se passe, quand on se moque de M. Mbappé, hein, M. Martinez, il a pris 4 buts. Hein, 3 pénaltys au même côté. Et il se moque d'Mbappé. C'est quand même... Et M. Messi ne dit rien. Qui dit rien qu'on sent? Ah, j'aime pas ça.
C'est pas la belle image de sport qu'on aime, ça.
Non, moi je préfère l'image de sport que nous ont réservé les Français. Il y a eu plus de 50 000, donc 300 000 spectateurs qui étaient au.
50 000 à Concorde.
Ouais, 50 000. Eh ben, ça m'a rappelé les Verts de 76, ah, oui. Et moi, ça m'a fait plaisir.
Ah, c'est ça.
Merci beaucoup. On vous envoie tout simplement la santé et la fête de Noël et surtout de fin d'année. Et merci de votre fidélité, de votre émission. Comme on dit là-bas, vivons sport et surtout entretenez-vous bien.
Un petit mot, Manu.
Ouais, un petit mot juste pour dire quand même que le Stade Briochin quand même a gagné vendredi.
Ah énorme. On en reparlera de ça.
Et franchement, ça donne espoir au maintien. Donc allez le stade.
Merci beaucoup.